Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir, le soleil ne se couchera pas sur Saint-Pétersbourg. Ce sont en effet les nuits blanches en ce moment, dans ce grand nord de la Russie. On peut dire que Franck Ferrand a bien choisi son moment pour nous y emmener sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Les nuits blanches, c'est un phénomène magique. Vous voyez le soleil descendre sur l'horizon. Il se cache même parfois derrière les bâtiments. La lumière décroît, il y a comme une sorte de jour sombre. Et puis le soleil, sans se coucher, croît de nouveau dans le ciel. Et c'est une nouvelle journée qui commence sans qu'il y ait de nuit.
Phénomène sublime. Vous avez apporté avec vous un livre monumental.
Ah oui, monumental, c'est le mot. Vous savez, certains livres sont précisément comme des monuments dans lesquels on se promène, bouche bée, les yeux écarquillés. C'est exactement le cas du très beau volume que viennent de faire paraître les éditions Citadel et Masno, un volume intitulé sobrement Saint-Pétersbourg. Je vous avoue que je n'ai pas résisté au plaisir de vous faire partager mes nostalgies pétersbourgeoises.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Vous les voyez, ces immenses façades bleues, vertes, jaunes, si lumineuses, rythmées de péristyles à très hautes colonnes blanches. Saint-Pétersbourg, aux rives de la Neva, est à la fois paresseuse et fière, avec des avenues très larges, enneigées jusque tard dans l'année, avec de vastes perspectives. Et en même temps, tout ça est très net. Imaginez les frontons sculptés qui se découpent sur un ciel souvent tendre, comme de la soie tendue au ton pastel. Et puis ces arcs de triomphe, ces portiques monumentaux, ces statues, ces canaux enveloppants qui vous prennent au ventre, entièrement bordés d'un peuple de statues, ces églises coiffées de dômes à bulbes, doré d'un or qui étincelle au soleil. Oui, c'est ça finalement. On pourrait dire que cette ville, c'est une ville bleu ciel et or bordée d'hermine, en tout cas en hiver, lorsque la neige fait cette bordure. Alors nous allons nous promener, si vous le voulez, parmi les merveilles de cet endroit presque parfait. Auparavant, je vous livre tout de même deux ou trois clés pour y accéder en toute tranquillité. Géographiquement, dites-vous qu'on est très au nord, hein, et très à l'ouest aussi. On est dans la partie la plus occidentale de la Fédération de Russie. Cette métropole a, si l'on veut, déplacé le centre de gravité de l'ancien empire des Tsars vers l'ouest, vers l'occident, et donc on est très au nord puisqu'on est dans le cercle polaire arctique à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est ce qui explique donc ce phénomène des nuits blanches qu'on connaît en ce moment à Saint-Pétersbourg. Je dis en ce moment, plus généralement du 15 juin jusque vers la fin de juillet, tout début août, les journées là-bas durent 18-20 heures. Alors on en profite, il y a 26 théâtres en ce moment à Saint-Pétersbourg. On va au concert, on va au ballet, il y a toutes sortes d'attractions sur les quais de la Neva. Quand je dis toutes sortes d'attractions, il faut compter aussi les longues beuveries, où on est en Russie tout de même. C'est une ville intellectuelle, Saint-Pétersbourg. Vous savez, c'est une ville très raffinée. Les pétersbourgeois ont toujours quelque chose à dire. Ils ont tendance à lire des auteurs peu connus, à écouter les musiques que personne n'écoute. Ce sont des gens sensibles à l'art, à la culture, beaucoup plus en tout cas que les moscovites en général, sans vouloir faire de généralité. Si vous voulez, Saint-Pétersbourg est un peu à Moscou, ce que Florence est à Rome ou Boston, à New York. Il y a là-bas une sorte de, un petit côté versaillais, si je puis dire. Mais alors attention, un Versailles d'avant-garde, c'est ce qui change tout. Sur un plan géopolitique, on est sur la mer Baltique. Cette mer que les Russes ont longtemps disputée aux Suédois, c'est le tsar Pierre, le Pierre le Grand, qui au tournant du XVIIIe siècle, aux alentours de 1700, a voulu faire de cette mer une mer ouverte, ouverte aux Russes, sous-entendu. Il s'est allié aux Danois, aux Polonais, il a décidé la création d'une cité sur l'estuaire de la Neva, cité qui serait à la fois un verrou pour empêcher l'accès d'éventuels agresseurs vers l'intérieur de l'Empire, mais aussi une ouverture sur le monde occidental. Il a commencé par s'emparer de la forteresse suédoise de Nöteborg, qui existait depuis le Moyen-Âge, qui était un petit peu l'avant-poste de Novgorod, rebaptisé Schlüsselburg. Et puis, il a lancé des fortifications sur l'estuaire, et le 16 mai 1703, il pose la première pierre de la forteresse Pierre et Paul, sur l'île au Lièvre. C'est le début, on peut dire, de Saint-Pétersbourg. Vous voyez, on est en 1703, ce qui explique qu'on ait célébré le tricentenaire en 2003. Tout ça est assez logique. Finalement, je vois que je, comme on dit, je raccroche les wagons.
Jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien. En 1705, on construit sur le continent, donc au sud, le premier bâtiment de ce qui plus tard va devenir l'amirauté. L'amirauté, c'est ce bâtiment sommet d'une immense flèche dorée qui se découpe si bien sur l'azur de la, du ciel de Saint-Pétersbourg. 72,50 m, vous imaginez, et tout au sommet, une caravelle dorée qui est l'emblème de Saint-Pétersbourg. Voyez quand même cette idée d'une cité d'ouverture, une cité de découverte et d'accueil. Tout ça est resté, bien entendu, on peut dire que ça fait partie, c'est dans les gènes même de la ville. Alors, pour commencer notre petite promenade, je vous propose de partir de, précisément de la forteresse Pierre et Paul. Elle est en forme d'hexagone à 6 bastions, défendue par, enfin autrefois défendue par 300 canons. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore à midi, tous les jours, on donne un coup de canon. Quand on est à Saint-Pétersbourg, ça permet de se repérer. Elle est devenue très vite une prison politique. L'un des premiers prisonniers ayant été le fils de Pierre Ier, le tsarévitch Alexei. Il y a une longue tradition de prison, si je puis dire, sur cette forteresse. Elle a été longtemps le symbole de l'oppression du régime tsariste. On visite aujourd'hui des cachots qui, c'est vrai, sont pas très accueillants, faut bien le dire. Il y a pas mal d'édifices dans cette forteresse, une trentaine en tout. On entre par la porte Saint-Pierre, évidemment. On tombe sur la cathédrale Saint-Pierre et Paul, qui elle aussi a une grande flèche hein, qui s'élève jusqu'à 60 mètres. En tout, comme la flèche est elle-même bâtie sur une haute tour, ça fait près de 120 mètres. Tout ça, c'est le symbole de cette ville tournée vers l'Europe tant désirée, comme disait Pierre le Grand. C'est dans cette cathédrale que se trouve la nécropole de la famille impériale des Romanov. Une nécropole qui a repris tout son rôle depuis le début des années 1990. Alors, je ne vous parle pas de l'hôtel des Monnaies, de la maison du gouverneur. Si vous longez le quai Petrovskaya en direction du quai où est ancré le croiseur Aurore, souvenir de la Révolution, vous tombez sur la maisonnette de Pierre. Et oui, n'oublions pas que le grand homme de cette ville et celui auquel on rend constamment hommage, ne serait-ce qu'à travers la grande et monumentale statue de ce qu'on appelle le cavalier de bronze, c'est bien sûr son fondateur, c'est bien sûr Pierre le Grand.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une invitation au voyage que vous propose Franck aujourd'hui sur Europe 1. Nous partons à la découverte de Saint-Pétersbourg.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble.
Baudelaire ne fait jamais de mal.
Alors, Baudelaire parlait d'Amsterdam, mais en l'occurrence, c'est un peu une Amsterdam du Nord que cette Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, c'est bien là-dessus que s'est fondé Pierre le Grand lorsqu'il la fonde. Il ne faut pas oublier qu'il avait vécu lui-même à Amsterdam. Ensuite, il voyagera en France et vous savez que c'est l'architecte Leblon qui va tracer le plan directeur de la ville. Ce que montre très bien Emmanuel Ducamp dans le beau livre qu'il a fait paraître chez Citadel et Masneau, c'est qu'en fait tout ça ne s'est pas construit en un jour et que cette idée de coup de baguette magique d'un Pierre le Grand qui, en quelques semaines, bâtirait Saint-Pétersbourg, évidemment, est une légende. Tout ça s'est fait peu à peu, au fil des règnes et des siècles. Néanmoins, il y a bien dans la structure de la ville la trace encore de son schéma originel et notamment ses canaux, hein, la Fontanka, la Griboyedo, d'Oval, le canal de la Moïka, etc. Alors, pour franchir les bras de la Neva, il y a des ponts dont certains se soulèvent la nuit. Nous étions, nous, tout à l'heure sur l'île de la forteresse Pierre et Paul. On passe sur l'île aux lièvres, on va passer sur l'île Vassilievski, où se trouve le palais Menchikov. Menchikov était le premier gouverneur de la ville. On longe le quai de l'université, qui est le plus ancien du pays. Et oui, tout était à faire au moment où Pierre le Grand décide d'occidentaliser la Russie. Et notamment, il fallait installer des quais. C'est là que se trouve l'ancien cabinet de curiosité de Pierre, entre nous soit dit, d'une collection de monstres anatomiques, une chose assez épouvantable. À la fin de sa vie, entre 1720 et 1725, Pierre partageait son temps entre le palais d'hiver, on va revenir évidemment sur la fondation de ce palais d'hiver et sur toutes ses évolutions, et le palais d'été, qui est aujourd'hui, dont les vestiges sont aujourd'hui dans le jardin d'été. À l'ouest de l'amirauté se trouve une statue, je vous l'ai dit, hein, ce cavalier de bronze que Catherine II dédiera à la mémoire de Pierre le Grand. À la mort du tsar Pierre, la ville comptait 75 000 habitants, ce qui veut dire qu'elle était déjà à l'époque plus peuplée que Moscou. Elle est devenue capitale de l'Empire russe en 1713, c'est-à-dire 10 ans seulement après sa fondation, et elle est restée capitale jusqu'en 1918, même si son nom, emprunté au néerlandais, Sankt Petersburg, d'ailleurs le surnom de la ville c'est Peter, hein, les Russes disent comme ça, même si ce nom évidemment a changé. En 1914 on le dégermanise, ça devient Petrograd, et en 1924 à la mort de Lénine ça deviendra Leningrad jusqu'au 1er septembre 1991. On a fait voter les habitants par référendum pour savoir s'ils allaient oui ou non accepter le retour au nom Saint-Pétersbourg. Ils ont dit oui, mais ils ont dit oui seulement à 55%. Les Russes n'en restent pas moins très attachés à cette ville qui pour eux est le symbole de la beauté, de l'art, de la culture, je vous l'ai dit. La ville comptait moins d'un million d'habitants en 1996. Aujourd'hui, les Pétersbourgeois sont plus de 4 millions.
Un extrait sur Europe 1 du concerto pour violon de Tchaïkovski, Franck.
Ah oui, Tchaïkovski qui fait alors vraiment partie des murs, si je puis dire. Il imprègne de son souvenir cette ville extraordinaire de Saint-Pétersbourg. Il fait partie des grands pétersbourgeois, comme Emmanuel Ducamp lui-même d'ailleurs. Bonjour Emmanuel, merci d'être des nôtres. Voilà, il faut se rapprocher du micro, ce sera mieux. Vous rentrez toujours, on ne sait jamais si vous êtes en partance pour Saint-Pétersbourg ou si vous en rentrez, mais en tout cas vous y passez beaucoup de temps, c'est certain.
J'y étais il y a 15 jours et j'y retourne dans 8 jours.
Voilà, la ville est devenue vraiment très belle. Je me rappelle l'avoir visitée juste après la chute du mur et la chute du communisme en Russie. À l'époque, elle était très belle, bien entendu, mais vraiment très sale. Il y avait énormément à faire. On peut dire que les restaurations sont allées bon train depuis 20 ans. Hein.
Depuis une vingtaine d'années, en effet, beaucoup de choses ont été accomplies. Et aujourd'hui, on ne reconnaîtrait presque pas, en effet, ce qu'on voyait lors du régime soviétique.
Oui,
les efforts étaient déjà nombreux
Bien sûr,
temps du régime soviétique, mais ne portaient pas vraiment sur les mêmes bâtiments. Aujourd'hui, ils portent sur toute la ville.
Alors, nous allons revenir avec vous, Emmanuel Ducamp, sur cette ville, sur son histoire et puis aussi sur son actualité, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la spécificité d'une ville qui est peut-être la plus célèbre de Russie après Moscou et qui peut-être est aussi la moins russe de toutes les villes russes.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Ducamp, qui est historien d'art, spécialiste de l'architecture et des arts décoratifs russes. Je rappelle son très beau livre Saint-Pétersbourg, vous le trouverez aux éditions Citadel et Masno, Franck.
Et je précise que le livre se vend à la pièce et non pas au kilo, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les auditeurs, parce qu'il est très très,
il est très, très lourd.
C'est un,
ouais,
très gros, c'est un très gros et somptueux volume extraordinairement illustré, avec un texte très original, j'insiste, parce qu'on a tendance souvent dans ces beaux albums, si je puis dire, avoir du texte courant un peu prétexte. Là, ce n'est pas le cas. C'est un véritable regard qui est né de la grande expérience qu'Emmanuel Ducamp peut avoir de la Russie en général et en particulier de Saint-Pétersbourg. Il avait publié, il y a quelques années, chez Flammarion, un très beau livre qui s'appelait « Grande collection de la Russie impériale ». Et on se rendait compte dans ce livre de l'incroyable concentration d'art qu'il peut y avoir dans cette espèce de Florence du Nord, si je puis dire. En l'occurrence, vous vous promenez à Saint-Pétersbourg à travers quelques-unes des plus belles collections de peintures et d'œuvres d'art réunies par de riches mécènes et marchands de l'époque d'avant la Révolution. Or, comme l'explique le professeur Piotrowski, qui était un des grands patrons de l'Ermitage dans la préface de cet ancien livre, le fond même des richesses du musée de l'Ermitage provient des collections réunies jadis par des hommes aussi variés que l'explorateur Semyonov Tianchansky, le diplomate Basilevski, de grands personnages comme Demidov ou le prince Félix Youssoupov, dont nous avons parlé récemment à propos de la mort de Rasputin. Est-ce qu'on peut dire finalement que cette ville est d'abord un musée, Emmanuel Ducamp, et je sens que je vais vous faire frémir ou en tout cas sursauter en disant ça.
J'ajouterai un seul terme, c'est un musée vivant.
Voilà, c'est ça.
C'est un musée parce qu'en effet, quand on se promène le long des avenues, qui sont, il faut toujours le souligner, beaucoup plus grandes que les nôtres, l'échelle de la ville,
oui,
est une des choses les plus impressionnante avec laquelle on doit, j'allais dire, se colter d'une façon un peu ordinaire, parce qu'il faut marcher longtemps pour découvrir la ville. Et derrière tous ces palais, vous avez des collections fantastiques, vous avez des intérieurs fantastiques. C'est pour ça qu'avec Marc Walter et avec l'aide de l'ancien ministre de la Culture de la Fédération de Russie, j'ai voulu aussi que l'on puisse pénétrer dans des palais qui n'étaient pas forcément ouverts au public, pour qu'on voit que la ville est encore là, celle qui existait en 1917 et qui a été plus ou moins préservée par le régime soviétique. C'est un des traits aussi que j'ai voulu souligner dans ce texte. Vous disiez que j'essayais d'avoir un regard différent. Je pense que quand on écrit un texte sur une ville comme Pétersbourg, il faut à la fois parler des caricatures ou des images d'Épinal, mais il faut...
ce que j'ai fait abondamment dans le début de l'émission, mais il fallait fixer les choses.
Non. L'introduction, en fait, j'aurais dû vous demander de l'écrire, parce que ça, elle était parfaite. Mais je crois aussi qu'il faut essayer de déconstruire certaines images. Nous avons aujourd'hui une vision qui est le fruit de notre histoire et celui de l'histoire de la Russie. On pense que Saint-Pétersbourg a souffert beaucoup de la révolution bolchevique en 1917. En fait, la ville a assez peu souffert de la révolution. C'est seulement le régime stalinien et surtout la Deuxième Guerre mondiale qui l'a endommagé. Et tout ce qui était derrière les murs, tout ce qui était à l'Ermitage impérial, tout ce qui était dans ses palais et qui progressivement a intégré les collections nationales au musée de l'Ermitage, est encore visible aujourd'hui, que ce soit à l'Ermitage, que ce soit au musée russe, que ce soit au palais Stieglitz ou dans certaines institutions qui sont restées intactes. Il y a dans l'ouvrage des photographies du palais Vladimir, qui est le palais du frère d'Alexandre III, qui est resté quasiment inchangé depuis 1917.
Il est vrai que, bien sûr, un certain nombre des grandes familles qui faisaient la gloire mondiale de Saint-Pétersbourg ont été spoliées au moment de la Révolution, mais lorsque le régime a changé et au moment où évidemment, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait ou non restituer aux familles. Un journaliste serait allé demander à Sergueï Chouchkine, qui est un des quatre frères collectionneurs nés de la, on peut dire, des grandes collections nés de la fin de l'Empire, s'il allait se joindre à ce mouvement de protestation et au procès qui était intenté à l'État russe par les familles spoliées. Et voilà ce que Chouchkine a répondu. Tout cela, je l'ai réuni pour moi, certes, mais surtout pour les Russes, afin d'ouvrir leur esprit à l'avant-garde. Quoi qu'il se passe maintenant sur le sol de mon pays, vous ne me verrez rien intenter contre l'État russe.
C'est un esprit altruiste. Je veux le mettre en parallèle avec celui de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Hélène de Ludinghausen, qui a longtemps œuvré pour la restauration du palais Stroganov. Elle explique encore aujourd'hui, ces choses-là sont en Russie, elles doivent le rester parce que tout le monde peut en profiter de cette façon-là.
D'ailleurs, l'attitude de la noblesse était relativement ambiguë au moment de la Révolution. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu cette première poussée de révolution en 1905, l'accord par le tsar d'une douma. On est dans une période de grande réforme et puis survient une première révolution politique au tout début de l'année 1917, avant le coup d'État bolchevique de la fin de ce qu'on appelle la révolution d'octobre, qui en fait a eu lieu pour nous en novembre. Et à l'époque, c'est vrai que tout ça n'est pas si clair. On raconte notamment que les Cheremetiev avaient donné les clés de leur palais aux soviets de Petrograd.
Peut-être parce qu'ils savaient que de toute façon, s'ils ne les donnaient pas, on les leur prendrait.
Oui, ça a aidé.
Le palais Cheremetiev, dont on trouve les photographies dans l'ouvrage, est aujourd'hui un musée remarquable, le musée des instruments de musique, mais avec des intérieurs et des œuvres d'art collectionnées par quelqu'un qui le faisait pendant la période soviétique.
Alors, tout à l'heure, j'ai commencé une promenade et nous avons, si je puis dire, laissé nos auditeurs en plan sur l'île Vassilievski. Nous ne les avons même pas fait rejoindre le continent. Il faut dire que lorsque vous êtes sur ces îles et que vous regardez la façade, c'est le mot de la ville, c'est d'abord la façade du palais d'hiver, bien entendu, mais il y a l'amirauté loin sur la droite. Ça fait une sorte de gigantesque rideau néoclassique, extraordinairement hérissé de colonnades néoclassiques, un peu baroque aussi, avec des couleurs très vives, tout ça est somptueux. Quand on entre dans la ville, alors on a comme une étoile, on rayonne, et puis bien entendu les toiles, la toile d'araignée devrais-je dire, les rayons sont reliés par tous ces canaux. La principale perspective, c'est une immense gigantesque avenue comme on n'en imagine pas en Occident, qui s'appelle donc la perspective Nevski.
Oui, qui est une des trois avenues qui constituent la patte d'oie qui part de la flèche de l'amirauté. Comme vous le disiez, un plan qui en fait origine originellement revient à Leblon et puis ensuite à un architecte qui s'appelait Piotr Eropkin qui travaille sous le règne d'Anna Yanovna.
Alors il y a une très grande unité dans tout ça parce qu'effectivement, comme vous le montrez très bien dans le livre, Saint-Pétersbourg ne s'est pas du tout bâti en un jour, contrairement à cette espèce de légende d'un Pierre le Grand qui ferait tout sortir en quelques semaines. Mais néanmoins, tout se construit dans une grande unité. À la fin du règne de Nicolas Ier, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, on en est encore à respecter exactement les critères qu'avait fixé Pierre à l'origine et la tsarine Elisabeth aussi.
Oui, il y avait dès le départ des espèces de modèles de construction qui étaient fournis à la ville. En Russie, on n'est pas forcément aussi libre qu'ailleurs et à Saint-Pétersbourg, c'était la même chose. Ensuite, on n'avait pas le droit de construire plus haut que la hauteur de la corniche du palais d'hiver, ce qui a donné à la ville une unité visuelle et en tout cas pas de...
Il n'y a pas de building.
Non.
C'est moins qu'on puisse
dire. Enfin, il n'y a pas eu de building jusqu'il y a... En tout cas, jusqu'à la fin de la Révolution.
C'est-à-dire qu'il n'y en a pas dans le centre historique. Et évidemment, exactement. Quand vous allez dans les banlieues, c'est moins brillant.
Oui, et puis on ne sait pas du tout ce que va réserver l'avenir. Vous rappelez l'affaire de la construction de la tour de Gazprom qui aurait fait 400 mètres de haut, qui devait être construite juste derrière les coupoles du couvent de Smolny, un des plus beaux bâtiments baroques du monde entier, construit par Rastrelli pour Elisabeth Ier. Pour l'instant, l'affaire est sinon close, en tout cas déplacée. On pense la construire ailleurs. Ça ne satisfait pas les pétersbourgeois.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le président Poutine, le premier ministre Medvedev, enfin toutes les personnalités qui dirigent la Fédération de Russie aujourd'hui sont des pétersbourgeois. On va y venir dans un instant, ça joue un rôle aussi très important. Saint-Pétersbourg est en quelque sorte la co-capitale de l'actuelle Russie.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Tchaïkovski de nouveau sur Europe avec un extrait du souvenir d'un lieu cher.
Alors ce n'est pas tout à fait la même époque, mais moi je ne peux pas entendre ce genre d'accord de Tchaïkovski sans penser à l'un des plus beaux ouvrages jamais écrits à mon avis. Ce sont les mémoires de Nabokov, ça s'appelle Autre Rivage et c'est absolument sublime. Et c'est un hymne en même temps, en tout cas toute la première partie de ce merveilleux livre, c'est un hymne à cette Saint-Pétersbourg qui était quand même celle d'une extrême douceur de vivre dans les dernières années de l'ancien régime, du régime du tsar Nicolas II en l'occurrence. Alors j'ai fermé cet ouvrage que je feuilletais pendant la publicité, mais je me disais quand même qu'on a une émission à faire. Donc...
oui, c'est préférable.
Et je suis un peu surpris de voir qu'en couverture, Emmanuel Ducamp, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi, vous nous avez mis le monument le moins pétersbourgeois qui existe, c'est-à-dire cette église Saint-Sauveur sur le sang versé qui a été construite pour célébrer, enfin pour en mémoire de l'attentat contre le tsar Alexandre II en 1881. Et cette église est une église très moscovite, très dans un style très russe, vieille Russie, ce qui n'est pas du tout ce qu'on voit d'habitude dans le reste de Saint-Pétersbourg.
Je n'ai pas choisi la couverture.
Ah voilà, c'est la réponse à ma question.
Mais elle est en fait.
Mais c'est très beau, cela dit.
Cette couverture, elle est la représentation des contrastes ou des contradictions qui animent la Russie. C'est l'église du Sauveur sur le sang versé, construite par Alfred Parlant pour Alexandre III. Et en effet, à cette époque-là, le régime russe cherche à retrouver ses racines dans la Russie d'autrefois. C'est pour ça qu'on choisit le modèle de la cathédrale de Saint-Basile à Moscou. Mais elle
avec
se dresse avec ses bulbes
assez
très colorées au milieu, en effet, de colonnades.
Un peu pavillon d'exposition universelle qui se reflète dans ce canal de la Griboïedova qui était l'ancien canal Catherine, du nom de l'impératrice, bien sûr.
Tout à fait, au milieu de la ville, non loin de la cathédrale de Kazan, autre grand sanctuaire construit sur l'ordre de Paul Ier, d'après le modèle de Saint-Pierre de Rome du Bernin. Donc, ces contradictions, elles agitait l'histoire de la ville autrefois, elle l'agite toujours aujourd'hui.
Quand on va aujourd'hui à Saint-Nicolas-des-Marins, ou même quand on se va un peu plus loin dans l'ancien monastère Smolny, on est, cela dit, bien dans l'esprit vieille Russie, incontestablement.
Ce qui est aussi très impressionnant quand on se promène aujourd'hui dans la ville et qu'on rentre dans les églises, c'est de voir combien elles sont à nouveau vivantes par rapport à il y a 25 ans et au régime soviétique. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue, pour comprendre le présent, le passé. Et aujourd'hui, la Russie se tourne à nouveau vers l'orthodoxie. Elle y est poussée, c'est vrai, par à la fois le fait qu'elle n'a pas pu exercer sa religion pendant tout le régime soviétique. Mais je pense que c'est un des traits, justement, des Russes, que cet esprit mystique et spirituel qui les anime. C'est aussi une des raisons pour lesquelles toutes les églises, progressivement, sont restaurées, retrouvent leur coupole dorée. C'est quelque chose qui donne un nouvel accent à cette ville qu'elle n'avait pas forcément il y a 25 ans.
Le plan de votre ouvrage n'est pas géographique, mais chronologique, ce qui est très important parce que ça nous permet, ça vous permet de consacrer des pages absolument magnifiques à une période relativement méconnue et pourtant très richement représentée dans l'architecture et dans les arts décoratifs de Saint-Pétersbourg. C'est l'art nouveau et c'est ce tournant du XXe siècle. C'est aussi beau que Vienne, sinon plus de ce point de vue.
Il y a en effet de très beaux bâtiments de cette période. Vous mentionniez tout à l'heure Nabokov. Nous avons la photographie de l'hôtel des Nabokov qui est sur la rue Bolshaya Morskaya, non loin de la cathédrale Saint-Isaac. C'est aussi, cet art nouveau, une expression de l'évolution de la Russie à la fin du XIXe siècle. Si on regarde l'histoire depuis le début du XVIIIe, ce sont surtout les tsars, les empereurs qui ont marqué la ville par leur volonté autocratique et aussi par tous les projets urbains et urbanistiques qu'ils ont enclenchés. À la fin du XIXe siècle, ce qui est intéressant, c'est que sous le règne d'Alexandre III, justement, la société russe, j'allais dire prospère, la révolution industrielle, je ne vous reparlerai pas des emprunts russes, a des effets...
Mauvais souvenir pour certains de nos auditeurs.
A des effets évidents sur l'architecture de la ville. Et donc, il y a une espèce d'éruption de bâtiments dans les styles les plus éclectiques et aussi dans le style art nouveau. Les Russes parlent de moderne, ils parlent de style moderne qui est en fait une espèce de salade russe d'un peu tout ce qu'on veut, à la fois un style néo-empire mais aussi un art nouveau qui est proche
c'est
de
l'éclectisme
notre style,
qu'on connaissait nous chez nous, mais alors ça a pris en Russie une dimension beaucoup plus monumentale. Il faut s'habituer quand on se promène à Saint-Pétersbourg à la grande échelle. Tout est plus grand. La moindre colonne est 3-4 fois plus grande que ce qu'on peut voir à Paris, par exemple.
C'est vrai qu'il faut à la fois s'habituer à la longueur des bâtiments et à la hauteur. Et pendant la période Art Nouveau, nous en avons plusieurs photographies, un trait amusant de l'architecture pétersbourgeoise est de construire tout en haut des façades des très grandes frises, soit en mosaïque de verre, soit en mosaïque de céramique, qui dépeignent des scènes dans la taïga ou bien des frises tout simplement ornementales et qui ajoutent justement à ce côté assez coloré de l'architecture.
Alors, vous accomplissez l'exploit de nous montrer des bâtiments soviétiques, je dis bien soviétiques, qui sont beaux à regarder. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai été assez souvent à Saint-Pétersbourg, mais je ne les avais moi-même pas remarqués. Bravo Emmanuel Ducamp. Nous arrivons à cette période plus récente de la Russie soviétique et post-soviétique dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de l'historien d'art Emmanuel Ducamp qui nous emmène faire un tour à Saint-Pétersbourg. Nous sommes ravis. Le Saint-Pétersbourg d'hier et celui d'aujourd'hui,
et
Franck.
Oui, celui d'aujourd'hui, en tout cas de juste hier, puisque vous consacrez quand même un long chapitre à l'architecture soviétique à Saint-Pétersbourg. Et surprise, ça n'est pas si laid que ça, c'est même plutôt pas mal à vrai dire.
N'ayez pas d'idées reçues.
Mais c'est ça, je dois en fait avoir de vieux préjugés.
Je voulais absolument qu'il y ait en effet un chapitre sur l'architecture soviétique. Et d'ailleurs, François de Varesquiel et Agnès de Gorter, le président et la directrice des éditions Citadelle, qui ont le courage, je veux le souligner, et l'ambition de publier ces ouvrages, qui sont des ouvrages lourds à produire, se sont laissés gagner par mon enthousiasme et ont accepté que justement nous fassions un chapitre sur architecture, ce que les gens connaissent peu. On connaît beaucoup l'architecture soviétique de Moscou,
ah ben ça, bien sûr,
et
oui.
notamment les sept sœurs, les sept oui. tours fantastiques qu'on y voit toujours aujourd'hui, fort bien tenues.
Très staliniennes.
Exactement. On connaît moins celle de Saint-Pétersbourg. Ce qui était intéressant aussi à Saint-Pétersbourg, c'était de montrer l'évolution progressive accompagnant le régime communiste entre une architecture d'abord constructiviste, c'est-à-dire le modernisme. Il ne faut pas oublier que c'était un premier jour, la révolution bolchevique. Tous les espoirs étaient permis, de nombreux artistes et des architectes se sont joints au nouveau régime et les premiers bâtiments qui ont été construits sont dans un style moderniste très intéressant.
Très ambitieux, oui.
Et progressivement, avec l'étroitesse peut-être de vue du régime stalinien, eh bien les choses se sont un peu plus renfermées ou sont redevenues classiques et on assiste dans les années 30 à une transformation, je dirais, vers l'arrière, vers le passé et on s'inspire, tous les architectes qui travaillent à cette époque s'inspirent simplement de ce qu'ils voient et ils construisent sur la même échelle et on a des immeubles notamment dans le quartier dit de Kirovski Rayon qui est à l'ouest de la ville lorsqu'on se dirige vers Peterhof, de fantastiques ensembles dont la légende le raconte, M. Bofill se serait inspiré
oui,
quand il a
c'est
construit
vrai que ça fait penser à Bofill, hein.
La place qui est derrière la gare Montparnasse.
Place de Catalogne.
Exactement. Cette architecture est méconnue, elle est non seulement bien tenue, elle est aussi très agréable à habiter, vous disent les Pétersbourgeois, parce que les volumes à l'intérieur des appartements sont bien calculés, assez spacieux. C'est un trait aussi que je voulais souligner.
Alors cette ville qui était devenue Leningrad est demeurée, c'est suffisamment singulier pour être souligné, est demeurée pendant toute la période soviétique, y compris bien après le stalinisme et jusqu'à la période brejnevienne et au-delà, est restée la ville intellectuelle de la Russie, même soviétique. Et il y avait une grande fierté chez les soviétiques à préserver, à entretenir et même parfois à surrestaurer un patrimoine qui certes avait été endommagé par la Seconde Guerre mondiale.
Oui, les Russes ont toujours été très proches de leur patrimoine et les soviétiques ont toujours considéré que l'héritage que leur avait laissé l'histoire faisait partie d'eux-mêmes. Et d'ailleurs aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si vous regardez le drapeau et le drapeau présidentiel, c'est le drapeau qui est frappé de l'aigle bicéphale couronné. Vous vous dites, on est revenu en arrière. C'est un mélange. Je crois que les Russes veulent ne pas oublier leur histoire. Ils n'ont jamais voulu véritablement l'oublier. Pendant la période soviétique, c'est vrai, certains souverains étaient laissés dans l'ombre. On ne parlait pas de Nicolas II, on ne parlait pas d'Alexandre III, on parlait un peu d'Alexandre II, le libérateur des serfs, et on avait une grande révérence aussi bien pour Pierre le Grand que pour Catherine II. Aujourd'hui, tous les souverains, je dirais, sont réunis dans un même panthéon. Je rappelle aussi aux auditeurs que Nicolas II a été sanctifié par l'Église orthodoxe et qu'on voit son icône maintenant dans toutes les églises orthodoxes dans lesquelles on rentre. Cette histoire, cette part de l'histoire est essentielle. Le côté intellectuel de la ville est un autre qu'il faut souligner, même si aujourd'hui les intellectuels ont souvent des difficultés.
Une galère, si je
puis dire.
Exactement,
de vie quotidienne. Souvent, vous avez aussi cette contradiction, ou en tout cas cette lutte entre Moscou d'un côté, où est le pouvoir économique, et Pétersbourg peut-être, où serait une partie de la pensée. Ces antinomies ne sont jamais mortes,
oui.
Mais elles font aussi avancer les choses.
Mais ce sont des villes qui progressent, contrairement à d'autres villes de Russie qui, elles, ont quand même de grandes difficultés.
Oui,
ça c'est un autre sujet.
Alors, il ne faut pas croire que l'exemple de Saint-Pétersbourg est celui de tout le reste de la Russie.
J'aurais adoré, évidemment, que nous puissions parler de ce qui constitue le cadre de ce qui constitue peut-être le plus beau d'un voyage à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire tous ces palais impériaux qui sont là dans la campagne pétersbourgeoise, à 30 à 40 kilomètres tout autour. Je pense à Petrodvorets, évidemment, avec ses extraordinaires fontaines, à Tsarskoye Selo, le village impérial, avec ses palais Catherine, son palais Alexandre, etc. Et puis, bien sûr, à ce qui peut-être est le plus beau, Pavlovsk, dans son néoclassicisme très pur. Vous êtes, vous, d'ailleurs, un spécialiste de ces palais impériaux, Emmanuel
Ducamp. Oui, j'ai eu l'occasion dans le passé de publier plusieurs ouvrages sur ces résidences.
Ah ben vous reviendrez pour nous en parler. Restons donc à l'intérieur de la ville elle-même pour ceux de nos auditeurs. Et j'imagine que sur la quantité d'auditeurs, il doit y en avoir un certain nombre qui vont aller là cet été ou dans les jours qui viennent pour profiter des nuits blanches, qui vont aller à Saint-Pétersbourg. Quel serait le conseil que vous auriez à leur donner ?
Même si c'est un conseil qui est un peu fatigant, il faut y marcher.
Eh oui, voilà.
Il faut, j'allais dire, pour se pénétrer de la ville, comme vous le disiez tout à l'heure, marcher le long du quai du Palais, percevoir cette échelle. Parce que c'est l'échelle à laquelle ou sur laquelle pensent les Russes.
Eh oui.
Comprendre la Russie d'aujourd'hui, c'est regarder celle du passé et de l'histoire. Savoir ce que peuvent faire les Russes aujourd'hui, c'est regarder ce qu'ils ont fait dans le passé. Et je pense que rien qu'en marchant le long de la Neva ou des canaux, rien qu'en regardant cette architecture, on voit, on perçoit la grandeur de ce peuple dans le passé et celle qu'elle peut avoir dans le futur et dans le présent.
Est-ce qu'il y a un petit musée ou un endroit spécifique qu'on n'a pas l'habitude de souligner dans les guides et que vous pourriez conseiller à nos auditeurs ?
Ah, j'aime particulièrement l'Académie des Arts, qui est la seule école d'art entièrement figurative, encore aujourd'hui, dans le monde, où viennent des étudiants chinois parce qu'ils ne peuvent pas trouver cet enseignement là-bas chez eux. Et là-bas, vous avez encore la Galerie des Plâtres qui existe depuis le XVIIIe siècle, encore utilisée par les étudiants pour venir apprendre à dessiner.
Promenez-vous le long du canal de la Moïka, allez visiter ces palais extraordinaires de Saint-Pétersbourg et puis allez voir aussi des édifices plus récents, les grands magasins construits à la fin du 19e siècle, la boutique Fabergé, etc. Et puis même cette architecture soviétique dont on aurait tendance a priori à détourner les yeux. C'est une grande erreur, nous dit Emmanuel Ducamp. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Bravo pour ce très beau livre dont les photographies sont de Marc Walter. C'est un œil, Marc Walter, c'est une caution, si je puis dire.